OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles. Ce soir, on va entreprendre une nouvelle discipline, celle de mémoriser les Saintes Écritures. Alors, on va regarder ça sous trois angles différents. La première, mémoriser les Écritures, c'est un devoir. On est porté à voir ça comme une chose qu'on laisse à notre discrétion. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne que c'est un devoir. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder les bénéfices que mémoriser les Écritures nous apporte. Et troisièmement, je vais vous suggérer une méthode que j'ai vue sur Internet par quelqu'un qui a réussi à mémoriser beaucoup et qui suggère une méthode que je trouve à la fois intelligente et facile. On aime ça, des choses faciles? Mais c'est facile, mais il faut quand même persévérer. Parce que ça peut être facile, mais on ne persévère pas même là. Alors, la mémorisation de la Bible, en tout cas, à ma connaissance et avec l'expérience que j'ai de la vie chrétienne, ça fait quand même 40 ans que je n'ai vu des chrétiens de toutes les couleurs. Alors, je peux dire que ce n'est pas une activité très populaire. Et au Québec, dans 40 ans, et dans tous les chrétiens que j'ai connus, j'en ai pas connu un qui m'a impressionné sur ce côté-là. C'est pas quelque chose pour se péter les bretelles, alors qu'on en voit qui ont étudié. Je vais vous donner tant l'heure des quelques exemples. Là. Et sur Internet, si tu vas sur YouTube, puis tu regardes mémorisation des Écritures, ou si tu regardes en anglais, tu vas en trouver encore plus. Et là, il y a des exemples de personnes qui n'ont appris des quantités telles que, comparativement à eux, je me considère comme un deux de pique. Et je dois dire qu'on est porté. Vu qu'on a. Moi, depuis le temps que je suis chrétien, là, j'ai pas entendu un sermon nous incitant à mémoriser les Écritures. Même pas un. J'ai entendu des bribes, des fois, dans des sermons. Mais pour dire un sermon sur le sujet, là, jamais. Quelque part, ça prouve que c'est pas une priorité dans nos esprits et dans l'esprit des pasteurs. Puis pourtant, je considère aussi que c'est une grave erreur. Alors, cette négligence-là qu'on a face à la mémorisation des Écritures, ça a de sérieux impacts à la fois sur notre marche chrétienne et sur notre croissance chrétienne. Alors, si on pose la question suivante, est-ce que la pratique de la mémorisation de versets. Est-ce que c'est laissé à notre discrétion ou si c'est commandé par le Seigneur? Les chrétiens qui adoptent et pratiquent la mémorisation retirent-ils des bénéfices de cette pieuse activité et dans l'affirmative, lesquels? Et la mémorisation est souvent perçue comme une tâche extrêmement difficile et tous les prétextes sont évoqués pour ne pas la pratiquer, dont la plus connue, « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas de mémoire ». On la connaît. Et pourtant, ceux qui pratiquent la méthode que je vais vous donner à la fin, là, simplement la répétition, la copier sur un bout de papier et la répéter le plus souvent que tu peux au cours d'une journée, si tu es capable de la répéter 100 fois en faisant la vaisselle, tu vas te rendre compte que tu n'auras même pas besoin de faire un effort de l'apprendre, il va rentrer tout seul. Puis après ça, tu passes à un autre, mais tu n'oublies pas de reviser ton premier. Et si tu continues comme ça, tu peux en apprendre des centaines et des milliers, et quand on dit qu'on n'est pas capable, ça, c'est le prétexte classique qui n'est pas vrai. Parce qu'on retient un paquet de choses. Et si on veut vraiment et qu'on persévère, on va y arriver. Alors, on va regarder la première chose, mémoriser les Saintes Écritures, c'est un devoir. On trouve dans les Écritures de nombreux versets qui nous indiquent quelle est la volonté de Dieu pour son peuple sur le sujet de la mémorisation des Saintes Écritures. On va prendre Deutéronome 6, par exemple, le fameux schéma des Juifs. Mais c'est pas rien que pour les Juifs que le Seigneur a donné ça, là. C'est pour tout son peuple complet. Là. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je sais pas si vous avez déjà vu des films ou des images de juifs où ils ont comme une petite boîte carrée sur le dessus de la main. Comme quand ça dit, tu les liras comme un signe sur tes mains. Je me souviens plus quel nom qu'ils donnent à ça. C'est fait avec des rubans, là. Puis là, à l'intérieur de ça, il y a des versets. Quelques versets en hébreu. Et aussi, je pense que vous l'avez déjà vu, de la porte de Juif aussi, ils l'ont avec un ruban qui se colle dans le front. Et ils prennent vraiment ce verset-là de façon très littérale. Ils collent ça à la main puisqu'ils sont dans le front. Je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Je pense que ça veut dire « rentre-toi là dans le coco ». Ça, c'est plus, je pense, dans le sens du commandement. Je me demande comment on peut interpréter « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tu ne prendras pas un texte, un papier, tu ne peux pas mettre ça dans ton cœur, excepté par la mémorisation. Deutéronome 11, versets 18 à 21. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Il y a des promesses qui sont rattachées. Alors, le Deutéronome 6, Deutéronome 11, ces deux chapitres-là, comment qu'on aura juste ça dans les Écritures, c'est déjà... Il y en a bien plus que ça. Je vous les donne pas toutes. Mais si vous allez sur des sites web, par exemple, qui sont spécialisés sur la mémorisation des Écritures, il y en a à la tonne. Alors, on peut pas se donner un prétexte de dire « Dieu nous demande pas ça ». Oui, Dieu te demande ça. Josué, chapitre 1, versets 7 et 8. « Fortifie-toi seulement... » et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est très intéressant, hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour qu'on puisse méditer quelque chose, il faut qu'à quelque part on l'ait dans le cœur ou dans l'esprit pour qu'elle puisse... Méditer, ça veut dire que tu laisses remonter quelque chose que tu sais déjà pour peser chacun des mots et regarder comment tu peux appliquer ce que tu es en train d'apprendre. C'est ça que ça veut dire. Psaume 37, versets 30 et 31. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Ou mettre la loi dans ton cœur, à part que par la mémorisation, je vois pas comment qu'on peut le faire. Psaume 119, verset 11, ça c'est un des psaumes connus qu'on n'arrête pas de citer. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, il y a un effet, qu'on appelle ça cause à effet. Plus tu vas savoir de paroles de Dieu, plus tu vas être armé pour lutter contre le péché. Puis on dit tous qu'on a des problèmes avec le péché, mais c'est rare ceux qui connaissent beaucoup la parole par la mémorisation. Deuxième point qu'on voulait regarder, c'est les bénéfices. Ça va nous donner quoi? Les Écritures nous disent que ça va nous donner des choses qui sont bénéfiques à notre âme, bénéfiques de notre relation avec Dieu. Donc, ça va nous donner le bénéfice de la puissance spirituelle. Lorsque des versets de la Bible sont enregistrés dans la mémoire d'un croyant, ces derniers versets sont rendus disponibles pour une utilisation par le Saint-Esprit dans la lutte contre le péché. Autrement dit, ce qu'on apprend par cœur, quand le Saint-Esprit voit que tu es dans une situation où tu as besoin de te faire rappeler une certaine parole de Dieu, c'est l'Esprit qui est à l'intérieur de toi qui te le remet à la mémoire. Alors, psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Aussi, les versets que tu utilises vont t'aider pour la victoire dans les luttes lorsque la tentation survient. Le meilleur exemple, c'est de regarder ce que le Seigneur a fait lorsqu'il a, lui, été tenté quand il est venu sur cette terre. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le mena dans la ville sainte, le mit sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si te prosternant tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. Trois fois, trois tentations, trois fois il est écrit. Il est écrit, il le prit où? Il connaissait. Il connaissait dans son cœur. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » La seule arme, toutes les armes d'Éphésiens 6, des armes défensives, il y en a juste une offensive que tu peux faire quelque chose pour, à l'attaque avec, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on dit l'épée de l'esprit, c'est l'épée de l'esprit. Alors, si tu la connais pas, c'est un peu comme quelqu'un, tu dirais, va à la guerre, tu lui donnes une belle grosse épée, puis il sait pas s'en servir. Je pense qu'il se la fera enlever assez vite de la main. Mais une épée, c'est comme n'importe quoi, il faut t'apprendre à t'en servir. Alors, plus tu vas connaître les versets, plus tu vas être habitué à les manier, puis dans les bonnes occasions et pour les bonnes raisons, plus ça va être puissant. Donc, le premier bénéfice, c'est celui de la puissance spirituelle. Le deuxième bénéfice, c'est le bénéfice de la fortification de la foi. Désirez-vous que votre foi soit plus forte? Elle le deviendra par la pratique de cette discipline. Je ne sais pas si vous avez la petite méthode que j'ai déjà faite avec des fiches. On parle de... Comment il s'appelle l'anglais, là? Là, en tout cas, lui, il priait tout le temps le Seigneur pour que le Seigneur augmente sa foi. Et à un moment donné, il a lu dans Romains que la foi vient parce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, il a comme allumé. Si je veux que ma foi soit forte, il faut que j'aille chercher le contenu de ma foi dans les Saintes Écritures et que je la rentre dans mon esprit. Alors, il a fait un lien direct, et à partir de ce moment-là, sa vie a changé. Hey, pour dire un verset bien compris, ça peut faire des grandes choses dans ta vie. Proverbe 22, versets 17 à 19. Prête ton oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles restent présentes sur tes lèvres. Je te les fais entendre aujourd'hui à toi-même, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Il parle de paroles de sages, il parle de paroles de Dieu, afin que tu les gardes au-dedans de toi. Comment tu peux garder une parole au-dedans de toi si ce n'est pas par la mémorisation? 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, « J'avais dit, que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. Mais maintenant, l'Éternel dit, loin de moi cette pensée, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et le verset que je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment Romains 10, 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, il y a un lien direct entre la force de ta foi et le temps que tu passes dans les Écritures et tout ce que tu fais avec. La lire, l'écouter, la mémoriser, la méditer, l'étudier. Plus tu vas faire ces choses-là, plus ta foi va grandir en conséquence. Troisième bénéfice, le bénéfice d'une évangélisation productive. Tu rencontres quelqu'un sur la rue, puis il dit, explique-moi donc ça, ton affaire, là. Puis là, tu arrives, tu commences, tu en cites un verset, puis tu as de la misère à dire Jean 3,16. Ça va pas loin. Puis des paroles d'hommes, c'est jamais aussi convaincant qu'une parole de Dieu. Si vous prenez des... Quand on évangélise, on devrait toujours utiliser beaucoup la parole de Dieu, plus que des paroles d'hommes. Je ne dis pas de paroles d'hommes entre les deux, là, pour expliquer les versets, mais en général, plus tu vas utiliser la parole de Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont été sauvées par l'écoute d'un seul verset. C'est le cas d'Arthur Pink, qui son père lui a dit... un tel croit, mais son issue, c'est la mort. Ça a été, pour lui, c'était un verset qui a fait la job, comme on dit. Alors, on va devenir un bon évangélisateur sur une base d'une personne à une autre personne, et même d'une personne à une congrégation. Plus tu vas connaître ta parole, mieux ça va être. Alors, quand nous évangélisons une personne, le fait de bien connaître les versets qui concernent le péché, qui concernent l'enfer, qui concernent la grâce, qui concernent la personne de Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit, le ciel et d'autres sujets du même ordre qui sont rattachés avec les Saintes Écritures, avec le salut, vont considérablement augmenter la force de ton témoignage. Quand je dis considérablement, ben c'est Dieu qui parle au lieu de toi. Ça vous donne-tu une idée de la différence, là? Alors, plus on va connaître la parole de Dieu, je me souviens d'un gars dans Tèche Tarouin, il m'avait demandé, donne-moi toute la série de versets qui parlent du salut, les cinq points du calvinisme. J'en avais sorti. Ben, il s'est attaqué sérieusement à ça, là. Très sérieusement. Imaginez-vous, quand vous êtes rendu, vous connaissez les cinq points, total depravity, élection inconditionnelle, rédemption particulière, et tu sais les cinq points, et tu sais 5-6 versets par point. Quand quelqu'un veut, tu veux expliquer le salut, là, puis que tu l'as là, le gars il est impressionné ou la fille est impressionnée quand tu sors les versets comme ça. Surtout si t'es dit exactement comme c'est dit dans les Écritures. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. » Autrement dit, Dieu, il voit que certaines personnes vont venir nous demander « C'est quoi ton affaire de chrétien, toi, là? » Puis il dit « Soyez toujours prêts à vous défendre parce qu'il sait que tu vas t'attaquer, puis là, avec douceur et respect. » Ça implique que tu connais les versets. Si tu ne connais pas les versets, tu vas dire, « Ben là, je vais appeler le pasteur, ben là, je vais appeler un autre. » Tu te fies sur les autres. Normalement, plus on prend de la maturité dans le Seigneur, moins on a besoin du pasteur pour évangéliser une autre personne. Vous êtes capable de le faire aussi bien que moi. Acte 4, verset 14 à 21. Mais Pierre, se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont point ivres comme vous supposez, puisque c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le deuxième, troisième, c'était le bénéfice d'une évangélisation productive. Le quatrième, le bénéfice de profiter de la guidance de Dieu. N'est-ce pas que quand on a un problème, on aime ça consulter quelqu'un qui est plus savant que nous, plus sage que nous, plus expérimenté que nous? Hein? C'est le fun, hein? Alors, qui ne souhaite pas avoir Dieu lui-même comme guide dans nos décisions et dans nos vies? Psaume 119, verset 24. Aussi, tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Autrement dit, quand on fait un conseil, on est un groupe de personnes et on jase à toujours de certains problèmes, on arrive à une solution en commun. Et il dit ici que c'est les versets qui vont devenir les gens de ton conseil. C'est ça que ça dit. Tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Plus tu vas connaître la parole, plus tu vas avoir des gens de ton conseil qui vont être sages, intelligents, etc. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Psaume 40, verset 8. Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Est-ce qu'on prend ça littéralement ou est-ce qu'on prend ça symboliquement pour dire que c'est la mémorisation que tu mets à l'intérieur de toi? Cinquième bénéfice, le bénéfice de favoriser et de stimuler la méditation. Psaume 119, verset 97. « Oh, combien j'aime ta loi! C'est ce dont je m'entretiens tout le jour. » Quand vous travaillez, si vous savez les versets par cœur, vous pouvez passer votre journée à méditer. Tu sais, quand il disait tout à l'heure à Josué, « Je médite jour et nuit. » Plus tu vas avoir de versets à l'intérieur de toi, plus tu vas avoir la capacité, dans n'importe quelle activité que tu fais dans ta journée, à faire remonter le verset, à réfléchir au verset, à regarder de quelle façon tu peux appliquer ça et obéir dans ta vie. Sixièmement, le bénéfice de la consolation, de l'instruction et de l'espérance. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dans le seul verset, il y a trois choses qui sont mentionnées. Tout ce qui a été écrit autrefois, il parle de quoi là? Il parle de l'Ancien Testament. Ça a été écrit, puis il nous dit la raison, pour notre instruction. Si on lit l'Ancien Testament, puis qu'on ne cherche pas qu'est-ce que Dieu cherche à me faire comprendre par ce passage-là que je lis, disons qu'on parlait des fois, on lit la Genèse, on lit une histoire, et si on voit ça uniquement comme la Bible nous raconte une histoire sur quelque chose, et qu'on ne cherche pas à appliquer le principe que le Seigneur est en train... C'est là pour notre instruction, donc c'est pour nous instruire. Et ça dit aussi, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Donc, les Écritures, si on les a à l'intérieur de nous, ça peut nous consoler. Et on a-tu besoin de consolation dans la vie? Très souvent. Et afin que nous possédions l'espérance. Septième raison, le bénéfice du bonheur et de la joie dans le cœur. Jérémie, chapitre 15, verset 16. « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorés. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. On a déjà parlé, l'allégresse, c'est la joie au point de danser. Quand tu danses parce que tu es de bonne humeur, c'est parce que tu as eu vraiment des bonnes nouvelles là-dessus. Mais ça que ça dit, tes paroles sont la joie et l'allégresse. On est souvent dans cet état-là à cause de la parole de Dieu? Pourtant, c'est Dieu ment pas. Psaume 19, verset 9, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. » Je pense qu'on est rendu à 8e, je ne me trompe pas. Là. « Le bénéfice d'une longue vie, de la grâce et de la sagesse. » Oh! Une longue vie en mémorisant les Écritures. Regardez ce que Proverbe 3, verset 1 et 2 dit. « Mon fils, n'oublie point mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours. » Faire un lien entre la mémorisation des Écritures et la longévité de la vie. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, là. « Et des années de vie, ils t'apporteront de longs jours, et des années de vie, et la prospérité. » Bien sûr, je ne pense pas qu'il parle uniquement de cette prospérité matérielle, je pense qu'il parle de prospérité spirituelle. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la mémorisation? Et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Un autre ici qui est intéressant, c'est le bénéfice d'un sommeil doux. Intéressant. Proverbe 3, verset 21 à 24. Mon fils, qu'elle ne s'écarte point de devant tes yeux, garde la sagesse et la prudence, et elles seront la vie de ton âme et un ornement à ton cou. Alors tu marcheras en assurance par ton chemin, et ton pied ne heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras point de frayeur, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 6, versets 20 à 22, on va arrêter là pour cette semaine, on continuera le reste le prochain coup. Proverbe 6, versets 20 à 22, « Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur. » Ça commence à être pas mal de versets. « Liés sur ton cœur et attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, ils te conduiront. » Quand tu te coucheras, ils te garderont. Quand tu te réveilleras, ils te parleront. Quel beau verset. Alors, on va terminer là pour aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine.